VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et bonjour à tous, excellent début de journée en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson à la une de notre émission.
Tir nourri hier de la police contre les manifestants à Bujumbura. Une nouvelle journée de tension est à craindre ce vendredi.
Et il y a eu des tirs qu'on entendait déjà d'ici à Kinindo. Là, on entendait vraiment les tirs. C'était vraiment trop fort.
Le président tunisien reçu à la Maison-Blanche pour obtenir plus d'aide militaire de Washington.
Faut-il ou non accepter le dialogue offert par Joseph Kabila? L'opposition est divisée à Kinshasa.
Le dialogue a été demandé à corps et à cri. Et même quand on se tire dessus, on se fait la guerre, on finit toujours par dialoguer.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports, Rigaud Gervais devrait s'engager avec l'AS Kaloum. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Au Burundi, on s'attend donc à de nouvelles tensions ce vendredi. La journée d'hier a été marquée par les tirs nourris et incessants de la police. Une répression qui n'a pas empêché les manifestants de sortir dans la rue. La Belgique, ancienne puissance coloniale, menace de suspendre son aide directe. Les détails avec Henri Francisque.
Dans Bujumbura, jeudi, des incidents ont éclaté à intervalles réguliers dans les habituels quartiers contestataires de la périphérie de la capitale. Autour des grandes avenues ou dans les ruelles, des groupes de jeunes ont affronté à coups de pierre et sur des barricades les policiers qui ripostaient à l'arme automatique, tirant en l'air mais également à hauteur d'homme. Ces violences ont été particulièrement intenses dans le quartier de Moussaga. Au moins deux manifestants ont été tués par balle, selon un bilan provisoire de la Croix-Rouge burundaise. Écoutez le témoignage de Sosten Simbara Kiyé, un habitant de Bujumbura.
Il y a la ministre du gouvernement qu'on appelle Imbonerakure qui manifestait au quartier Kanyosha sous l'appui de la police qui cherchait le chemin en faisant des tirs pour écarter la population. Ce soir, c'est surtout dans le quartier de Moussaga, les militaires ont essayé de repousser les manifestants et il y a eu des tirs qu'on entendait déjà d'ici à Kinindo, là on entendait vraiment les tirs, c'était vraiment trop fort.
Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées depuis un mois lors des manifestations. À ce jour, près de 110 000 Burundais ont fui leur pays. Sur le plan diplomatique, le gouvernement burundais apparaît de plus en plus isolé. La Belgique, ancienne puissance coloniale, a menacé d'arrêter son aide bilatérale en cas de troisième mandat de M. Nkurunziza.
Et retrouvez toutes les infos sur la crise burundaise sur notre site web voaafrique.com. L'insurrection de Boko Haram a causé une des pires crises humanitaires d'Afrique. Tel est le constat du Comité international de la Croix-Rouge qui a estimé que des fonds supplémentaires sont nécessaires afin de porter secours aux victimes. L'organisation insiste sur le besoin d'aide aux victimes de violences sexuelles enlevées par le groupe djihadiste. Le CICR critique aussi des associations humanitaires pour leur manque de réactivité.
Aucune charge n'est encore retenue à l'encontre de Moussa Tchangari à Niamey. Arrêté lundi matin et gardé dans les locaux de la police, Moussa Tchangari est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste Boko Haram, a indiqué le ministre de l'Intérieur à l'AFP. Les avocats de cet activiste très critique sur la situation humanitaire dans le sud-est du Niger dénoncent un dossier absolument vide.
Les gouvernements sénégalais et marocains ont signé hier à Dakar 13 accords dans divers domaines dont les douanes, l'industrie, le tourisme et l'environnement. À l'occasion de la visite au Sénégal du roi du Maroc, la cérémonie a eu lieu au palais présidentiel en présence du chef de l'État sénégalais Macky Sall et de Mohamed VI.
L'ancien maire rwandais Onesphore Wabukombe, condamné l'an passé pour complicité dans le génocide des Tutsis en 1994, en court désormais la perpétuité. La Cour fédérale allemande a ordonné hier que M. Wabukombe, condamné l'an dernier à 14 ans de prison pour complicité dans le génocide des Tutsis, soit rejugé en raison de son rôle actif présumé à l'époque des faits. Il en court donc désormais la perpétuité.
L'enfant ivoirien de 8 ans qui avait été caché dans une valise pour tenter d'accéder à l'Espagne a obtenu hier une carte de séjour provisoire pour rejoindre sa mère, le père restant en détention selon les autorités espagnoles. Lors d'un contrôle à la frontière, la garde civile espagnole avait découvert le 7 mai dernier ce petit garçon de 8 ans blotti dans une valise, recouvert d'habits et ayant du mal à respirer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le groupe djihadiste État islamique s'est emparé entièrement de la ville antique de Palmyre en Syrie, le groupe extrémiste contrôlant désormais la moitié du territoire syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La destruction de la cité antique de Palmyre serait une énorme perte pour l'humanité, a déclaré la directrice de l'UNESCO. Le groupe État islamique a aussi pris le contrôle du dernier point de passage de la frontière syro-irakienne, encore aux mains du régime syrien.
Et à Washington, le président Barack Obama estime pourtant que les États-Unis ne sont pas en train de perdre le combat engagé contre l'État islamique. Par ailleurs, hier, le Pentagone a reconnu que pour la première fois, des victimes civiles dans des bombardements en Irak et en Syrie, admettant qu'une frappe en novembre 2014 près de Harem en Syrie avait tué deux enfants.
Le président américain Barack Obama accorde à la Tunisie le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Une annonce à la suite de son entretien hier à la Maison-Blanche avec son homologue tunisien Beji Caïd Essebsi. Les précisions de Lionel Gaïma.
La Tunisie est ainsi devenue le 16e pays au monde à être honoré de la sorte. Le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN permet aux États-Unis de nouer des alliances hors du cadre de l'Alliance Atlantique. Il ouvre la voie au renforcement des relations militaires et financières avec les pays concernés, sans pour autant aboutir à un accord de défense mutuelle. Les États-Unis croient en la Tunisie, a déclaré le président Barack Obama en promettant de continuer d'appuyer les réformes démocratiques entreprises par ce pays à la faveur du printemps arabe, des réformes qui ont permis au président Essebsi de devenir le premier leader démocratiquement élu de la Tunisie. La Maison-Blanche a demandé au Congrès 138 millions de dollars d'aide en faveur de la Tunisie, dont plus de 62 millions pour la partie militaire.
En Libye, libération hier à Tripoli de 42 Tunisiens détenus par la milice de Fajr Libya. C'est ce qu'annonce Mohamed Abdesalam Al-Kouheri, un responsable du bureau libyen de lutte contre l'immigration clandestine cité par l'agence France-Presse.
Le roi Abdallah II de Jordanie s'est entretenu hier à Amman avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Au menu, la lutte contre le terrorisme et le processus de paix israélo-palestinien, selon un communiqué du Palais Royal.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a accusé les deux camps dans le conflit ukrainien de violer le cessez-le-feu. Le directeur adjoint de la mission spéciale de contrôle de l'OSCE en Ukraine, Alexander Hug, a déclaré que l'armée nationale et les rebelles séparatistes ont continué à lancer des attaques se servant d'armes qui auraient dû être retirées du front. Les belligérants avaient pourtant affirmé le retrait de leurs armements lourds, conformément aux accords de Minsk.
Au moins 18 guérilleros des FARC ont été tués et deux autres blessés lors d'un bombardement de l'armée dans le sud-ouest de la Colombie. Le raid militaire a visé un campement des forces armées révolutionnaires de Colombie dans le département du Cauca, un des fiefs de la rébellion marxiste engagée dans des négociations de paix avec le gouvernement.
Retour aux États-Unis où 6 policiers de Baltimore poursuivis pour la mort d'un jeune noir qui avait provoqué des émeutes dans cette ville de l'est des États-Unis ont été formellement inculpés, y compris pour meurtre. Selon l'autopsie, Freddie Gray est mort le 19 avril dernier d'une blessure aux vertèbres cervicales.
Les États-Unis et Cuba continueront ce vendredi leurs négociations à Washington en vue de rétablir leurs relations diplomatiques rompues depuis un demi-siècle.
Enfin, l'état d'urgence a été décrété dans la zone touristique de Santa Barbara en Californie à la suite d'une fuite de pétrole brut au nord-ouest de Los Angeles. Il s'agit là d'une des pires marées noires qu'ait connue cet état de l'ouest américain depuis 1969. On voit tout ça avec Eddie Sango.
Le gouverneur Jerry Brown a pris cette décision 24 heures après la découverte de cette fuite de pétrole dans une zone touristique à Refugio State Beach. L'état d'urgence permet à la Californie de débloquer ainsi les sommes prévues pour aider à nettoyer les zones polluées. La fuite aurait été causée par la rupture d'un oléoduc. La nappe polluante s'étend maintenant sur 14 km le long de la côte pacifique. La compagnie responsable de l'oléoduc a présenté ses excuses pour les dégâts causés à l'environnement et assuré qu'elle poursuit les opérations de nettoyage 24 heures sur 24. Plusieurs groupes écologistes s'alarment des éventuelles conséquences à long terme de cette marée noire. Selon les dernières estimations des autorités, mercredi après-midi, la fuite a été estimée à environ 400 000 litres, dont 80 000 litres déversés dans l'océan.
C'est vendredi matin, vous écoutez VOA Afrique, ainsi s'achève le journal. Nous accueillons à présent Félix Yepassi-Zemrou pour la Minute Éco.
Le représentant résident de la Banque africaine de développement au Sénégal, M. Mamadou Lamine Ndongo, a salué jeudi la performance du portefeuille de l'institution financière au Sénégal en 2015. Il a indiqué que ce bilan éclatant est le résultat de plusieurs facteurs liés notamment à un suivi de proximité des opérations par le bureau régional de la BAD et qui a conduit plus de 90% des missions de supervision de projets. En République démocratique du Congo, plus de 180 000 dollars disparaissent chaque mois du circuit de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Le ministre du Budget, qui a révélé cette information, affirme que des enquêtes sont en cours pour démanteler ce réseau mafieux. Selon M. Michel Bongongo, le manque à gagner pour l'État congolais s'élève à 2 173 000 dollars américains par an.
Ces statistiques ne concernent que le seul secteur de la santé et plus précisément les médecins. Ce tableau sombre démontre à suffisance comment une mafia organisée s'est installée dans ce secteur.
Depuis près d'un mois, le prix du maïs a flambé sur le marché togolais. Selon notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson, le bol de 2,5 kg est vendu à 700 francs CFA. Les associations de consommateurs demandent à l'État d'approvisionner les marchés avec les excédents céréaliers de la campagne passée afin de faire chuter les prix.
Merci Félix, on passe au sport dans cette émission. En parler avec nous ce matin, Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
En football, l'entraîneur ivoirien Rigo Gervais sur la route de l'AS Kaloum en Guinée.
Oui, les négociations seraient très avancées entre l'entraîneur du CEO Sport San Pedro et les dirigeants du club guinéen. Le contrat pourrait même être conclu ce week-end selon une source proche du dossier joint par VOA Afrique. Rigo Gervais va remplacer à ce poste un autre ivoirien, François Zawi, qui est parti il y a quelques semaines pour diriger le MENA du Niger.
Président de la FIFA, Luis Figo jette l'éponge.
Oui, selon l'AFP, l'ancien joueur vedette portugais, Luis Figo, a annoncé hier à son tour sa décision de se retirer de la course à la présidence de la FIFA, à l'instar du néerlandais Michael Van Praag, laissant ainsi le prince Ali, seul candidat en lice face au dirigeant sortant Sepp Blatter.
On l'évoquait hier matin, les accusations continuent concernant les conditions de travail au Qatar en vue du Mondial 2022.
Oui, Amnesty International a accusé le Qatar de n'avoir pas tenu sa promesse de réforme de sa législation du travail pour les migrants au centre de vives critiques en vue de l'organisation du Mondial 2022. Dans le dernier de ses rapports dénonçant des abus, Amnesty International accuse le riche émirat gazier du Golfe d'avoir failli à sa promesse faite en 2014 d'introduire des réformes dans des domaines cruciaux, versement des salaires, système de parrainage dit kafala, qui met l'employé à la merci de son employeur, restriction sur un changement d'employeur. Le Qatar a aussitôt souligné son désaccord avec cette conclusion d'Amnesty.
Un mot de cyclisme, le Giro, le Tour d'Italie.
Oui, le Belge Philippe Gilbert de l'équipe BMC a remporté la 12e étape du Tour d'Italie hier jeudi. L'Espagnol Alberto Contador de l'équipe Tinkoff, porteur du maillot rouge, a pris lui la 2e place de l'étape au classement général provisoire. Contador précède Aru de 17 secondes et l'Espagnol Michael Landa de 55 secondes. Ce vendredi, la 13e étape sur 147 km plat se court entre Vicence et Jossolo sur les rives de l'Adriatique à la veille du grand contre-la-montre de Valdobbiadene. Et puis pour terminer, Nicolas, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, deuxième victoire de justesse de Golden State face à Houston. Sur leur parquet, les Warriors s'imposent 99-98. À noter les 33 points de Stephen Curry. On remercie évidemment Bagassi Koura pour ce journal des sports.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music. Les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. All my ladies,
décalé, rien décalé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Si vous nous rejoignez, la deuxième partie de notre émission Le Monde aujourd'hui. Nouveau coup dur pour la liberté de la presse, déjà bien malmenée ces dernières semaines au Burundi. Le patron de Radio-Télé Renaissance, média privé détruit durant le coup d'État manqué, est convoqué ce vendredi matin au parquet de Bujumbura. Idriss Fall a joint Innocent Muhozi, le directeur de la Radio-Télévision Renaissance.
Oui, je suis convoqué devant le parquet. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. On me dit que c'est pour enquête, que dans une affaire qui est apparemment liée à la tentative de coup d'État qui a eu dans la nuit du 13 ou dans la journée du 13, je ne me souviens pas très bien. Donc je ne sais pas exactement quel est le motif, mais bon, je vais m'y rendre et voir qu'est-ce qu'il en est.
Cette même semaine, vous avez essayé d'entrer dans votre radio. Les policiers vous ont barré la route.
Ça fait un moment que les policiers ceinturent tous les bâtiments qui ont été attaqués et interdisent l'accès. Et nous avons une décision du procureur général de la République qui précisait qu'il était interdit d'accéder à ces locaux pour raison d'enquête et qu'il était strictement interdit d'y entrer sans autorisation préalable du parquet. Donc nous n'arrivons pas à entrer dans nos locaux, c'est aussi simple que ça.
Est-ce que ça pourrait être lié au fait que votre radio avait diffusé le message des putschistes?
Ça peut être lié à ça, ça peut être lié aussi à une animosité qui s'est développée ces derniers temps envers les médias indépendants. Donc c'est clairement, à mon avis, les deux aspects. Ce n'est pas venu comme ça brutalement. Non, il y avait une animosité déjà, une incompréhension depuis bien longtemps entre les pouvoirs publics et les médias indépendants qui étaient là et qui tournent à l'agression de plus en plus physique, même des journalistes, avant qu'il n'y ait eu ces attaques en règle.
Qu'en est-il de l'ensemble des radios privées?
Non, il n'y en a plus une seule. Les seules radios qui restent, ce sont des radios spécialisés, disons, sur des domaines très précis, mais pas d'information générale. Donc les principaux médias qui donnaient l'information, qui participaient au débat, qui animaient le débat, n'existaient plus du tout. Ils ont été physiquement liquidés, c'est aussi simple que ça.
Et ça va prendre combien de temps pour réparer tout ça?
Si on ne nous empêche pas maintenant par divers stratagèmes politiques de recommencer, on peut se débrouiller et pouvoir avoir une ou deux qui puissent être remises sur les ondes assez rapidement, mais pour l'instant, il faut qu'on arrive à surmonter l'obstacle politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique de nous laisser travailler ou pas? C'est ce que nous essayons de vérifier maintenant.
Innocent Muhozi, le directeur de la radio-télévision Renaissance. À Kinshasa, c'est la question que se posent tous les opposants en ce moment. Faut-il accepter ou non l'offre de dialogue de Joseph Kabila avant les élections? Le sujet divise, comme l'a constaté Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Depuis le début du mois de mai, un émissaire du chef de l'État consulte opposition et société civile en vue d'un éventuel dialogue. Pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'une réponse du président de la République à la demande de l'opposition. À l'UDPS, on salue cette avancée. Félix Tshisekedi, au cadre du parti de son père, tient tout de même à ce que ce dialogue s'inscrive dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba.
C'est un pas dans la bonne direction. Mais attention quand même qu'on cherche à récupérer la situation. Donc ici, je voudrais vraiment faire une observation au camp de M. Kabila. C'est celle de dire, nous serons, nous, en tout cas de l'UDPS, inscrits dans la logique qui est celle imprimée par l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est-à-dire de mettre la communauté internationale au centre de nos débats. Donc il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'il y a une récupération politique de la part de M. Joseph Kabila, qui voudrait reprendre d'une main ce qu'il avait perdu de l'autre en faisant des concertations qui n'ont jamais été crédibles.
Ce point de vue est partagé par Steve Mikai, le porte-parole de l'opposition dite nationaliste, pour qui ce dialogue va baliser la voie vers des élections apaisées.
Le dialogue a été demandé à corps et à cri, et moi-même qui vous parle, j'ai été porte-parole de la coalition pour un vrai dialogue. Donc l'opposition nationaliste est prête à dialoguer, parce que même quand on se tire dessus, on se fait la guerre, on finit toujours par dialoguer.
Cependant, de nombreuses organisations de l'opposition, notamment l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo ou encore l'ECID de Martin Fayoulou, voient en cette initiative la possibilité pour le pouvoir d'obtenir le glissement du calendrier électoral. Jean-Lucien Boussa est le porte-parole de la dynamique créée pour dire non au dialogue avant les élections.
L'opposition politique congolaise est prête pour aller aux élections. C'est cette position commune qui a été communiquée à l'émissaire de M. Kabila, dépêchée auprès des leaders des partis politiques, des regroupements politiques et des groupes parlementaires de l'opposition congolaise qui se sont sentis en devoir de porter la démarche de l'émissaire au sein de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition.
De son côté, la MONUSCO, dont les bons offices ont été sollicités par les favorables au dialogue, se dit prête à accompagner ce processus. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Retour sur le 47e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu cette semaine à Accra, au Ghana. Les chefs d'État de la région ont abordé plusieurs sujets, dont celui de la transition burkinabé. Ils ont insisté sur le maintien de la date du 11 octobre pour la tenue de la présidentielle. Les chefs d'État de la sous-région ont également mis en garde contre toute exclusion dans le processus électoral. Alors pourquoi les dirigeants de la CEDEAO se sont-ils sentis obligés de faire de telles déclarations ? Bagassi Koura a posé la question à Ismaël Diallo, président du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou.
La CEDEAO l'a fait probablement en pensant que nous avons, nous, au Burkina Faso, nous avons dans la loi sur le code électoral exclu des personnes. Mais nous n'avons exclu personne. Pour qui lit la loi, c'est une loi qui n'exclut pas des individus, mais c'est une loi simplement qui sanctionne des personnes qui ont voulu corrompre la Constitution. Et nous sommes très surpris de cette décision de la CEDEAO.
Peut-être que malgré toutes les explications, les Burkinabés n'ont pas encore pu convaincre la communauté internationale que cette loi n'est pas une loi exclusive.
Nous n'avons peut-être pas pu convaincre certaines personnes physiques et morales, mais simplement pas parce que nous n'avons pas d'arguments ou que nos arguments ne sont pas justes, mais parce que ces personnes ont d'autres intérêts et qui ne sont pas les intérêts du Burkina Faso. Je le dis sans embâche. Où étaient ces personnes en octobre 2014, lorsque le pouvoir d'alors a voulu corrompre la Constitution pour pérenniser le pouvoir de celui qui était président? Où était le président de la Côte d'Ivoire pour ne pas le nommer? Où était le président de la commission de la CEDEAO pour ne pas le nommer?
Et Alassane Ouattara, à son retour à Abidjan, a aussi parlé du fait que l'exclusion ne sera pas acceptable au Burkina Faso.
Oui, mais il prend vraiment une très grande liberté de dire en tant que président de la Côte d'Ivoire que l'exclusion ne serait pas acceptable au Burkina Faso. Eh bien, alors qu'il use des moyens qu'il a en tant que président de la Côte d'Ivoire pour venir nous obliger, nous, au Burkina Faso, à revenir sur la loi que nous avons adoptée.
Alors, ils ont aussi, les chefs d'État de la CEDEAO, insisté sur la date du 11 octobre 2015 pour les élections présidentielles. Est-ce qu'au Burkina Faso, il y a un débat sur le report éventuel de ces élections?
Il n'y a pas de débat au Burkina Faso sur le report des élections présidentielles et législatives programmées se tenir le 11 octobre 2015. Il y a, oui, quelques individus qui parlent de la nécessité, prétendent-ils, de reporter la date de ces scrutins, mais les arguments donnés sont fallacieux et ce sont des intérêts cachés, bien entendu.
Ismaël Diallo, président du Front de renforcement de la citoyenneté.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Nous vous en parlions hier, un rapport publié par l'ONG Greenpeace accuse les chalutiers chinois de piller les ressources halieutiques des pays ouest-africains. Selon l'ONG, des centaines de ces bateaux pêchent une quantité non déclarée de poissons au large des côtes de la Gambie, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal, entre autres, ayant recours à des méthodes destructrices interdites dans divers pays, y compris en Chine. Timothée de Langmaille a joint Dakar El Ali Haïdar, président de l'Océanium, une association de protection de l'environnement.
Les ressources de l'Afrique en général sont pillées par les multinationales, sont pillées par des mafias, des mafieux, parce qu'en face, très souvent, hélas, des gouvernements faibles ou des gouvernements corrompus sont avides de trouver de l'argent. Mais je trouve la mémoire de Greenpeace trop sélective parce que on ne doit pas et on ne peut pas accuser seulement des bateaux chinois alors que d'autres bateaux, notamment de grands groupements qui sont ici, font exactement la même chose et personne ne parle d'eux. Et je trouve même inquiétant que le chargé de communication de Greenpeace Sénégal, M. Koulibaly, soit le frère du groupement des armateurs industriels du Sénégal, qui est M. Koulibaly.
Quelle est la situation que vous déplorez au niveau de votre pays?
Ce que je déplore au niveau de l'Atlantique en général, c'est que vous savez, si vous vous rappelez, en 2006, on avait des accords avec l'Union européenne qui permettaient aux bateaux de l'Union européenne de pêcher le démersal côtier, donc en concurrence avec la pêche artisanale, qui permettait de pêcher le petit pélagique, donc en concurrence avec la pêche artisanale, qui permettait de pêcher le thon, notamment le thon listao, qui n'est pas en concurrence avec la pêche artisanale, parce que la pêche artisanale n'a pas accès à ses ressources, et qui permettait de pêcher le démersal profond, qui n'est pas en concurrence avec la pêche artisanale. Quand en 2006, on a arrêté ces accords de pêche, les bateaux industriels n'ont pas quitté le territoire sénégalais. Les bateaux sont restés là, ils ont monté des sociétés, ils ont installé un mécanisme financier qui leur permet, et tous autant qu'ils sont, qui leur permet de pêcher nos poissons, de l'expédier dans leur pays, et cela sans payer de droits. Quand ils n'ont pas assez pêché, ils se permettent même d'aller dans les marchés et dans les villages de pêcheurs pour acheter du poisson, et ils exportent 100% de ce produit-là vers leur pays.
Que faut-il faire?
Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est avoir une volonté politique très forte. Très forte, et quand je parle de volonté politique forte, c'est-à-dire un engagement, une détermination à mettre de l'ordre dans ce marigot de requin, parce qu'en réalité, ce n'est qu'un marigot de requin avec des mafieux très, très puissants.
Ali Haïdar, président de l'Océanium, nous parlait depuis Dakar.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'Organisation de coopération et de développement économique tire la sonnette d'alarme. Les inégalités de revenus ont atteint des proportions sans précédent et menacent à long terme la croissance économique. Quelles sont les sources de ces inégalités et comment y remédier? Chérubin Dorcy l'adjoint, l'une des économistes qui a préparé cette étude, Anna Liena Nosal.
Ce qu'on analyse, c'est que la croissance des inégalités a augmenté pendant les deux ou trois dernières décennies et que ce n'est pas un phénomène juste de la crise et que c'est un phénomène global qui donc se situe dans des pays à faible inégalité comme les pays nordiques, mais aussi des pays à forte inégalité comme les États-Unis. On analyse également les pays émergents. Dans ces pays, on voit que quand même dans certains, il y a une tendance à la baisse en Amérique latine, mais dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde et l'Indonésie, les inégalités aussi continuent à se creuser.
Et qu'est-ce que vous avez relevé comme principaux facteurs à la base de ces inégalités ?
Précédemment, on avait beaucoup parlé du rôle des prestations sociales, de la redistribution, mais aussi de la globalisation. Dans ce rapport, on se centre surtout sur le marché du travail. D'un côté, on trouve que l'emploi des femmes, généralement, sert à freiner ces inégalités. L'augmentation de la participation des femmes dans beaucoup de pays de l'OCDE a permis donc de réduire les inégalités de 1 à 2%. Mais d'un autre côté, on trouve qu'il y a une forte croissance dans certains pays de l'OCDE, de ce qu'on appelle les emplois non standards.
Quand vous dites emploi non standard, vous voulez parler d'emplois non stables, non permanents ?
Des emplois temporaires, à temps partiel.
Alors, quand on considère les données de ce rapport, y a-t-il lieu de s'alarmer ?
Cette croissance se creuse et c'est un impact pas seulement social, mais aussi économique. Donc, il est temps aussi d'agir sur cela et de créer des emplois de qualité, de promouvoir l'emploi des femmes et aussi l'éducation et une meilleure redistribution et des politiques sociales.
Est-ce que vous venez là de mentionner quelques pistes de solutions ? C'est justement ce que j'allais vous demander.
On propose ces quatre grands axes qui ne sont pas forcément les seuls, et en même temps d'être sûr que le système d'imposition permette à tous de payer selon leur capacité, surtout dans cette période de crise.
Anna Liena Nosal, économiste de l'OCDE, elle était jointe à Paris, voilà, depuis Washington, Nicolas Pineau avec vous. Ainsi va s'achever notre émission Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Nicolas Pineau à la présentation. On va vous souhaiter une excellente journée à tous. Avant de se quitter, nous allons saluer Champagne Mutombo à Lubumbashi, c'est en République démocratique du Congo. On va faire un coucou également à Digne-les-Bains en France, à Aurélie Colgarnier. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de VOA Afrique.
Au cœur de l'info sur VOA.